Écoutez Kiosque Magazine.
Alors, on est de retour à Kiosque Magazine en ce beau vendredi frisquet. On poursuit en danse parce qu'il faut bien bouger. Alors, Stéphanie Vallet, dans la presse le 17 septembre, signe le papier Léonce et Léna, farce sur pointe. En créant Léonce et Léna il y a 6 ans pour le ballet du théâtre Alto à Essen en Allemagne, le chorégraphe Christian Spock n'aurait jamais pensé que sa pièce satirico-comique serait reprise à de si nombreuses occasions. Les danseurs des Grands Ballets canadiens de Montréal, qui ont ajouté ce ballet à leur répertoire en 2010, le présenteront d'ailleurs de nouveau à partir de jeudi au Théâtre Maisonneuve. Après avoir signé la chorégraphie de The Children, sombre ballet inspiré de la pièce du même nom d'Edward Bond, le directeur du ballet du théâtre Alto à Essen a demandé à Christian Spock de revenir l'année suivante avec une création beaucoup plus lumineuse. Le chorégraphe a relevé le défi malgré la difficulté de mettre en scène un ballet comique. Je me rappelle avoir vu Léonce et Léna au théâtre quand j'avais 17 ans. J'avais été fascinée, mais je n'avais absolument rien compris à ce qui se passait. Mais j'étais tout de même absorbée, explique Christian Spock, qui a choisi d'adapter la satire politique éponyme de Georges Büchner, écrite en 1836. On y suit Léonce, prince du royaume de Popo, qui se languit d'un ennui infini, et Léna, princesse du royaume voisin de Pipi, qui ressent douloureusement l'étroitesse et l'absurdité du monde. Avant qu'une histoire d'amour ne puisse éclore entre les deux rejetons royaux, ceux-ci doivent se soustraire aux conventions, de leur ubuesque micro-état respectif. Un langage pour chaque personnage. Le chorégraphe a dû transposer en mouvement la richesse du texte de Büchner, plein d'ironie, de sarcasme et de poésie, dans lequel on retrouve de nombreuses références à d'autres pièces, que ce soit du Shakespeare ou de la Commedia dell'arte. Je savais que l'aspect théâtral serait très fort, car le public devait pouvoir suivre la trame narrative. Ne pouvant utiliser la parole si savamment utilisée par Büchner, j'ai dû inventer des langages chorégraphiques différents pour chaque personnage. Par exemple, Valerio, le personnage le plus ironique de la pièce, qui vit dans le confort et le luxe, ne court que vers l'arrière, car il n'appartient pas vraiment au royaume Pipi et Popo, où tout le monde s'ennuie. Léna et Léonce évoluent quant à eux surtout au sol, pour mieux montrer la lourdeur et la mélancolie de leurs univers, explique-t-il. C'est aussi par le choix de la musique, jouée par l'Orchestre des Grands Ballets sous la direction de Florian Zimen, que Christian Spock a réussi à retranscrire sur pointe la comédie politico-satirique de Büchner, jouant sur le contraste entre l'ennui et la lenteur des personnages et sur les rythmes rapides et divertissants des compositions de Strauss, Zimmermann, Donner, Schnicke, Ponchinelli et Delibes, qui vient renforcer l'aspect parodique de Léonce et Léna. C'est du 18 au 27 septembre au Théâtre Maisonneuve à 20h. Pour plus d'informations, visitez le www.grandballet.com.
No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa junto a mi ropa. No sé si fue por Castillo, Pugliese, Troilo, D'Arienzo, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo. Ay, los vinos. Seguro que fueron los vinos.
Yo fui.
Seguro que fueron los vinos. No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo. Y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, los vinos. Que fueron los vinos.
Yo no fui.
On vient d'entendre la formation musicale Otros Aires, qui donne des envies de commencer le week-end un peu plus tôt, avec la pièce Los Vino.
Pour ceux qui, comme la chanson, en ce cas, si vous aimez la chanson, si vous êtes friand d'intensité, peut-être vous serez comblés de voir la pièce Dans les bois de David Mamet, qui est jouée à Québec à premier acte. Dans Le Devoir, il y a un article qui en parle. C'est ce titre de nuance et d'intensité, c'est écrit par Gabriel Marcoux-Chabot. Dans les bois est une pièce magnifique sur la difficulté de connaître et d'aimer, portée avec justesse et sensibilité par deux comédiens en pleine possession de leurs moyens. Manifestant une présence scénique remarquable, André Robillard impressionne dans le rôle d'Antoine, un jeune homme d'une lumineuse candeur, incapable de s'empêcher de verbaliser ses moindres états d'âme. Plus en retrait, Jean-Denis Baudouin inquiète et émeut à la fois dans la peau de Nick, un être sombre et silencieux, manifestement troublé par les remugles de son passé. Tous deux s'aiment. De courtes scènes muettes disséminées tout au long du spectacle évoquent d'ailleurs leur rencontre chargée de désirs dans un bar quelconque de la cité. Mais pour l'heure, ils sont à la campagne, dans le bois pour être précis. Nick a en effet invité son amant à passer quelques jours en sa compagnie, loin de la violence et des saletés de la ville. C'est là, sur la galerie en bois d'un chalet perdu en pleine forêt, que se jouera le drame habituel des non-dits et des aveux partiels, des souvenirs refoulés et de la violence contenue, de la beauté saccagée et des espoirs déçus. Que les amants soient deux hommes importe peu. Que la pièce ait initialement été écrite pour un homme et une femme importe encore moins. D'un autre point de vue, on pourrait aussi dire que cela importe énormément, dans la mesure où on se rend compte justement que le sexe des protagonistes n'a aucune importance. Seul compte en effet la profondeur humanité des personnes, des personnages, et le jeu sincère des comédiens mis en valeur par des éclairages discrets, une trame sonore bien dosée et une scénographie réduite au minimum et une mise en scène d'une efficace sobriété. Sur le plan du texte, la pièce use de ressorts assez convenus, personnages contrastés, passé trouble, langage cru, violence, folie, pour créer un huis clos tout en nuances et en sensibilité qui attire l'attention du spectateur sur la complexité des rapports humains, sans pour autant juger ou condamner les individus impliqués. Aimer est difficile, mais il n'y a pas de fatalité. La pièce se termine d'ailleurs par un instant suspendu, ouvert à toute possibilité. Dans les bois, c'est le titre de la pièce, c'est écrit par David Mamet. C'est une mise en scène de Daniel Lesault-Farmer. Les comédiens qui jouent sont Jean-Denis Baudouin et André Robillard. C'est joué à premier acte jusqu'au 4 octobre. C'est connu, c'est entendu, les spectacles d'humour ont toujours la cote au Québec, tandis que la fréquentation des spectacles de chansons anglophones et de cirque diminue. Ces tendances ressortent d'une étude publiée jeudi par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, le OCCQ, et de l'Institut de la statistique du Québec. On y mentionne que les 17 100 représentations payantes de spectacles en art de la scène qui ont lieu l'an dernier ont attiré 6,7 millions de spectateurs pour des revenus de billetterie atteignant les 227 millions de dollars. L'assistance a ainsi baissé de 8 % et les revenus de billetterie de 14 %. Selon l'étude, il s'agit de la plus forte baisse annuelle depuis 2004. Par contre, les spectacles d'humour ont enregistré une hausse de 15 % de leur assistance par rapport à 2013.
Alors, on continue en humour et en paillettes avec le One Mado Show, Mado Lamotte qui déballe son sac. C'est un article d'Ismaël Oudassine sur canoë.ca le 17 septembre dernier. Vous trouvez déjà Mado Lamotte extravagante? Eh bien, attendez-vous de la voir dans One Mado Show, son prochain spectacle solo où vient s'entremêler humour, musique, variété et froufrou flamboyant. Lors de la rencontre de presse à son mythique cabaret, la reine de la nuit montréalaise est arrivée sur scène affriolée d'une robe rose bonbon et d'une longue chevelure bleue. Mise en scène par Jean-Belzile Gascon, le spectacle prévu pour 3 soirs au Jésus mettra ses projecteurs sur la diva reine de la bitcherie. « Pendant plus d'une heure, je vais tout raconter », a-t-elle expliqué en entrevue. mes voyages, ma conception de la beauté, la technologie, les Français et la politique. Bref, tout ce qui m'inspire. Toutefois, l'artiste précise que le show se fera dans la bonne humeur. Je me plains beaucoup, mais c'est du bon chialage. Je le fais en m'amusant, je rigole sur plein de choses, tout cela sans méchanceté, même si j'envoie quelques gags à certaines personnes. Mon objectif n'est pas de descendre les gens, mais bien d'avoir du plaisir. En formule stand-up. Une première expérience pour l'artiste qui ne s'était jusqu'ici jamais attaqué au stand-up. Le public, qui a l'habitude de l'avoir chanté, va découvrir une Mado qui se raconte davantage. On est loin de l'ambiance de son précédent spectacle, Mado's Got Talent, donné cet été dans le cadre du gala Juste pour rire. Cette fois, elle sera accompagnée seulement de son pianiste, Nicolas Burgess. Dans une atmosphère de cabaret, l'artiste ponctuera ses numéros de quelques chansons et d'intermèdes musicaux. Je vais interpréter plusieurs morceaux dans lesquels j'incarne une Dalida si elle n'était pas morte en 87. Je vais reprendre ses succès à travers plusieurs vedettes comme Madonna, Lady Gaga et Miley Cyrus. Après plus de 25 ans de carrière, Mado a jugé que le moment était venu pour ce genre de show. Le spectacle représente une suite logique à tout ce que je fais depuis mes débuts. J'ai toujours aimé faire de l'impro, alors je crois que je suis mûre pour faire un vrai stand-up comic show. Je veux relever le défi car j'ai encore bien du plaisir à incarner mon personnage. Le One Mado Show sera présenté le 30 septembre, ainsi que les 3 et 4 octobre à compter de 20 heures au Jésus.
Ma tête soliloque autour la semelle de mes bottes. Quand elle se frotte au pavé des ruelles, on m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
On vient d'entendre « Se tenir debout » de Fred Pellerin. Comme j'en discutais d'ailleurs dans la pause avec Charles, ça fait suite à un hommage vibrant à Claude Robinson au gala dimanche dernier des Gémeaux. Vraiment, si vous avez la chance, vous pouvez le googler et trouver l'extrait, c'est magnifique.
Je vais poursuivre avec un texte de Frédéric Doyon qui nous propose une exposition des photos de Gabriel Desmarais qui a fait des photos pendant de nombreuses années des artistes qu'on a vus à l'écran, qu'on a vus ailleurs aussi. Donc, ce texte s'intitule « Galerie de portraits à ciel ouvert, le star système québécois et mondial vu par le photographe Gabi ». C'est paru le 16 septembre dans Le Devoir. Le quartier des spectacles n'aura jamais accueilli autant de personnalités illustres à la fois. Sur la promenade des artistes, Félix Leclerc côtoie Dominique Michel. Louis Armstrong joue du coude avec Glenn Gould dans une ambiance théâtrale et un temps qu'on croirait aboli. Et le prestigieux cortège se poursuit ainsi jusque dans les murs de la grande bibliothèque. L'exposition Gabi, maître du portrait, veut sortir de l'ombre l'imposante production de Gabriel Desmarais, l'un des photographes les plus importants du Québec et le premier à connaître une fulgurante carrière internationale. Il était grand temps que mon père puisse faire un retour sur la scène québécoise, confiait lundi au Devoir Ronald Desmarais à quelques heures du vernissage. À l'invitation du partenariat du quartier des spectacles, il a puisé ses fonds personnels des œuvres de son père en complémentarité avec les fonds d'archives Gabriel Desmarais de la Grande de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. C'est la première fois depuis 50 ans qu'elles sont exposées, dit-il. Près d'une centaine d'œuvres de photos, près d'une centaine des œuvres du photographe convient à une plongée dans l'histoire du show business québécois et du star système mondial entre les années 1940 et 1980. Car non seulement Gabriel Desmarais s'est immiscé dans les cabarets et les salles de théâtre montréalais, y croquant les Gracien, Gélina, Alice Roby, mais Hollywood, Londres et Paris lui ont ouvert aussi leurs portes. Talentueux autodidacte. C'est en photographiant les patineurs du parc La Fontaine et en vendant ses clichés qu'il s'initie à son art et comprend qu'il peut en faire une carrière. Autodidacte, il ouvre son premier studio à 21 ans, et se met à courir le monde dès 1950. S'invitant chez le réalisateur Cécile B. DeMille par l'entremise d'une connaissance chez Paramount, ce dernier a tellement aimé ses photos qu'il lui fait rencontrer tout Hollywood, raconte M. Desmarais. Rita Hayworth, Jane Mansfield et Fred Astaire sont ainsi passés devant son objectif. Il avait un talent artistique, mais aussi la bosse des affaires, rapporte son fils. Il savait manœuvrer pour conserver ses droits d'auteur. Plusieurs fois, on lui a demandé d'acheter ses clichés et ses droits, et il n'a jamais cédé, même si on lui offrait des gros montants. Il avait une fascination pour les hommes brillants, les prix Nobel, les musiciens, les peintres, évoque M. Desmarais. Le photographe a ainsi immortalisé le philosophe Bertrand Russell, le pianiste polonais Arthur Robustin, les chanteurs Charles Aznavour, Serge Reggiani, les poètes Anne Hébert, Paolo Neruda, Louis Aragon et les artistes Alfred Pellan, John Lehmann, Jean Cocteau. C'est d'ailleurs les musiques de ceux qui l'a photographié qu'on entend en déambulant le long de l'exposition. Cette exposition est là jusqu'au 16 novembre, le long de la promenade des artistes du parterre et du boulevard Maisonneuve au quartier des spectacles et sera aussi jusqu'à la BANQ, jusqu'au 7 juin 2015.
Alors, on poursuit pour une petite balade en vélo hors de l'ordinaire. À la recherche du temps perdu, c'est un article de Florence Saragé Ferrari, le 13 septembre dernier, dans Le Devoir. Une escapade à vélo dans la forêt à 100 pieds dans les airs. Perdu dans la végétation dense, on n'entend presque rien. Le vent fait doucement frémir les feuilles, pareil à un murmure constant. Les oiseaux accordent leur mélodie au passage de la brise entre les branches. Pour peu, on oublierait quasiment le faible grincement métallique qui accompagne chacun de nos mouvements. Assis sur une sorte de vélo futuriste, les deux pieds bien ancrés sur les pédales, on avance paresseusement dans la canopée. Pour une deuxième année consécutive, l'équipe du Diable Vert, cette base de plein air située dans les cantons de l'Est à une vingtaine de minutes de Sutton, propose une activité inédite aux curieux en quête de nouvelles sensations. Sur un parcours d'environ 1 km, il est maintenant possible d'explorer les hauteurs de la forêt en bordure de la rivière Missisquoi à bord d'un vélo volant. Ah. Il n'y a rien de plus naturel pour un Québécois qu'être en forêt, lance le propriétaire des lieux, Jérémy Fontana. Mais c'est un sentiment tout autre quand on se retrouve à 100 pieds dans les airs. Le branchage est plus touffu, le vert peut-être plus intense. Ici et là, le soleil se pointe, se filtre un chemin timide entre les rameaux. Toujours en ligne droite, le trajet s'effectue en environ 45 minutes et se fait presque sans effort, puisqu'il joue avec la dénivellation du terrain. Alors que les premiers coups de pédale se font un peu plus de 2 pieds du sol, on se retrouve vite à près de 100 pieds dans les airs lorsque la pente s'accentue. Le point de départ se trouve déjà en altitude, soit à environ 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer, explique Fontana, un sourire dans la voix. Des fois, tu as presque l'impression que tu peux toucher le ciel. C'est la chose qui est extrême dans cette activité. Il ne faut pas avoir le vertige. Ode à la lenteur. Les parcours aériens ne manquent pas au Québec, que l'on pense aux différents sites d'arbres en arbre et d'arbres à ska ou encore au nouveau module d'équilibrisme urbain proposé par Exalto sur l'esplanade olympique montréalaise depuis le début de la saison estivale. Or, le vélo volant du domaine du Diable Vert ressort du lot pour par son caractère très tranquille. Ces différents sites, ceux qu'on parlait précédemment, offrent toujours des expériences où l'adrénaline est sollicitée. Alors que l'activité du vélo volant est une véritable chance d'apprécier la forêt en hauteur sans se presser. Tandis que bon nombre d'activités extérieures misent sur l'effort fourni, c'est plutôt le contraire ici. L'idée, c'est d'encourager les gens à aller lentement, ce qui est très inhabituel. Offerte tous les jours, beau temps, mauvais temps, jusqu'à l'aube du mois de novembre, cette activité est aussi l'occasion d'admirer les atouts autonomes de la forêt. Alors, c'est jusqu'en novembre, tous les jours de 10h à 19h, au Diable Vert, 169 Staines, Glen Sutton. Les renseignements et les réservations au vélovolant.com. Poursuit avec une dernière critique théâtrale cette fois, « Garder son cœur d'enfant », un texte de Roxane Léouzon dans le journal Métro d'aujourd'hui. La proposition de Peter et Alice est séduisante, la rencontre de deux individus qui peinent à vivre en tant qu'adultes dans l'ombre de leur célèbre alter ego qui, lui, ne vieillit pas. L'intérêt est d'autant plus fort quand on sait que les histoires vraies relatées sont celles d'Alice Little Hargraves, qui a inspiré l'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, et de Peter Llewellyn Davies, le Peter Pan de l'auteur James Matthew Barry. Sur la scène du théâtre Jean Duceppe, l'œuvre est visuellement accrocheuse. Les décors dans la vitrine d'une librairie changent au gré des univers évoqués et sont tous plus colorés les uns que les autres. Des personnages surgissent de toutes parts et entraînent les principaux protagonistes dans un tourbillon de souvenirs heureux et malheureux. Toutefois, les dialogues tombent rapidement dans les lieux communs, les clichés à propos des tares des grandes personnes et les déclarations bonbons du genre « on ne peut pas vivre dans l'imaginaire »,« la vie a valu la peine grâce à mes enfants » et « l'enfance sert à se faire une réserve de souvenirs heureux ». En fin de compte, on est très peu amené à réfléchir et modérément diverti. Cette pièce plaira surtout à un public d'un certain âge, plein de nostalgie, qui aime se faire rappeler qu'il faut garder un cœur d'enfant. Peter et Alice au Théâtre Jean Duceppe jusqu'au 18 octobre.
À Montréal, l'art est vraiment partout, vraiment. Histoire de convaincre les sceptiques, le Bureau d'art public de Montréal a organisé jusqu'à dimanche, dans deux jours, une série de visites guidées gratuites pour découvrir certaines des plus belles de ces œuvres que l'on croise souvent sans même le savoir, ou du moins sans les apprécier à sa juste valeur. Sortez donc vos ados, les six différents circuits de 90 minutes animés par l'autre Montréal sont recommandés pour les 16 ans et plus. Et pensez à réserver vos places car elles sont limitées. L'inscription se fait seulement en ligne, je vous donne l'adresse artpublic.ville.montréal.qc.ca.
Alors, on poursuit en danse avec Angeline Brejocage. J'espère que je massacre pas trop le nom, mais bon, c'était l'intention qui compte. À Quartier Danse. Donc, voilà de quoi ravir les passionnés de danse ce soir et demain. Le ballet Brejocage présentera Empty Moves, Part 1, 2 and 3. Oh Jésus! Pour ce triptyque, le renommé chorégraphe français Angeline Préjocage s'est inspiré des mots lus sur scène à Milan par le regretté poète et compositeur américain John Cage en 1977. Avec cette œuvre encensée de toutes parts, le créateur souhaite proposer, entre autres, une réflexion sur l'état des corps, de la visite rare et précieuse qui s'annonce marquante, à voir absolument.
L'Opéra de Montréal ouvre sa 35e saison à samedi, demain, à 19h30 à la salle Wilfrid Pelletier avec Nabucco de Verdi. Parmi les gens de la distribution, vous pourrez voir Paolo Giavanelli d'Italie, au pupitre de l'Orchestre métropolitain Francesco Maria Colombo. Trois autres représentations suivront les 23, 25 et 27 septembre. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Kiosque Magazine. Je remercie Martin Dupuis et Jean-Sébastien à la Liberté, à la mise en onde et à l'aiguillage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.
Merci, à bientôt.